dans des caves voûtées aménagées pour l'occasion. Nous sommes les seuls visiteurs. Dans la première salle, plusieurs grandes crucifixions en bois peint alternent avec de vieilles hallebardes et des représentations de bûchers, des femmes en haillons qui brûlent. Les sorcières de Feldbach, explique le commentaire. Le scénographe ne nous a pas épargné le son, des hurlements lointains noyés dans des crépitements sauvages. Je suis troublé par la grande beauté de ces êtres qui payent leur commerce avec le démon, et que les artistes médiévaux montrent à demi-nus, chair ondulant dans les flammes, des ondines maudites. Sarah observe et commente. Son érudition est extraordinaire. Comment peut-elle connaître si bien tous ces récits, toutes ces histoires de Styrie, alors qu'elle aussi vient d'arriver à Heinfeld? C'en est presque inquiétant. Je commence à être effrayé. J'étouffe un peu dans cette cave humide. La seconde salle est consacrée au filtre, au breuvage magique. Une vasque de granit gravée de runes contient un liquide noir, peu appétissant, et lorsqu'on s'en approche retentit une mélodie au piano dans laquelle je crois reconnaître un thème de Georges Gurdjieff, une de ses compositions ésotériques. Au mur, sur la droite, une représentation de Tristan et Iseult sur un bateau, devant un jeu d'échecs. Tristan boit dans une grande coupe qu'il tient dans sa main droite, pendant qu'un page enturbanné verse d'une outre le filtre à Iseult, qui regarde le jeu d'échecs et tient une pièce entre le pouce et l'index. Derrière eux, la servante Brangien les observe, et la mer infinie déploie ses ondulations. J'ai soudain la sensation que nous sommes dans la forêt obscure, auprès de cette fontaine de granit, dans Péléas et Mélisande. Sarah s'amuse à jeter une bague dans le liquide noir, ce qui a pour effet d'augmenter le volume de l'ample et mystérieuse mélodie de Gurdjieff. Je la regarde, assise sur la margelle de la vasque de pierre. Ses longues boucles caressent les runes alors que sa main plonge dans l'eau sombre. La troisième salle, sans doute une ancienne chapelle, est celle de Carmilla et des vampires. Sarah me raconte comment l'écrivain irlandais Sheridan Le Fanu a passé tout un hiver à Heinfeld, quelques années avant que Hammer l'orientaliste ne s'y installe. Carmilla est inspirée d'une histoire vraie, dit-elle. Le comte Burgstall a bel et bien recueilli une de ses parentes orphelines nommée Carmilla, qui s'est immédiatement liée d'une profonde amitié avec sa fille Laura, comme si elle se connaissait depuis toujours. Très vite, elles deviennent intimes. Elles partagent secrets et passions. Laura commence à rêver d'animaux fantastiques qui lui rendent visite la nuit, l'embrassent et la caressent. Parfois, dans ses songes, ils se transforment en Carmilla, à tel point que Laura finit par se demander si Carmilla n'est pas un jeune homme déguisé, ce qui expliquerait son trouble. Laura tombe malade d'une maladie de langueur qu'aucun médecin ne parvient à guérir, jusqu'à ce que le comte ait vent d'un cas semblable à quelques milles de là. Plusieurs années auparavant, une jeune femme est morte, deux trous ronds au haut de la gorge, victime de la vampire Millarca Karstein. Carmilla n'est autre que l'anagramme et la réincarnation de Millarca. C'est elle qui suce la vitalité de Laura. Le comte devra l'abattre et la renvoyer dans la tombe par un rituel terrifiant. Au fond de la crypte, où de grands panneaux rouges sang expliquent la relation de Heinfeld avec les vampires, se trouve un lit à baldaquin. Un lit bien fait, au drap blanc, aux boiseries tendues de voiles de soie brillants. Le scénographe de l'exposition a éclairé par en dessous, avec des lumières très douces. Sur le lit, un corps de jeune femme est allongé, dans une robe